Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la 6ème émission de JT Foot cette saison. Samedi soir, le TFC s'est de nouveau incliné au Stadium face à Reims. Une défaite 0-1 qui constitue le 8ème revers de suite en Ligue 1 pour les hommes d'Antoine Comboiré. Celui de trop pour les supporters qui ont vivement manifesté leur mécontentement auprès de la direction.
C'est même pas niveau amateur quoi.
Pour la première fois depuis longtemps, le président Sadran s'est exprimé dans les médias lors d'un entretien exclusif auprès de nos confrères de la Dépêche du Midi. Nous reviendrons avec nos rédacteurs en plateau sur la rencontre ainsi que sur les incidents qui ont marqué la fin de match et sur l'interview délivrée par Olivier Sadran. Nous attribuerons notre traditionnelle récompense aux joueurs du TFC avec un petit changement, la violette s'est fait la malle. Nous nous pencherons également sur la rencontre de Coupe de France que disputeront les Toulousains début janvier. Julien vous fera faire le tour des meilleures déclarations de la planète foot.
Il faut les porter les couronnées, ça.
Un exemple de finesse. Et nous terminerons bien sûr par un quiz préparé avec amour et passion par Axel. Allez, trêve de bavasserie, EJT Foot, c'est parti. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de JT Foot, avec moi en plateau, Simon et Hugo. Ça va les gars, bien remis de ces nouvelles péripéties TFCistes? C'était dur à dire ça.
Mais c'était vraiment très très dur parce que on n'a pas vu un grand match quoi.
Effectivement, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est vrai qu'on plaisantait un peu hein, ces dernières semaines sur l'ambiance plutôt morose au sein du club et de ses supporters, mais là on n'a jamais autant ressenti ce sentiment de crise au sein de l'institution violette. Pour changer un peu les idées de nos auditeurs qui sont sûrement déprimés eux aussi, Victor s'est penché sur l'actualité du TFC en espérant qu'il y ait quelques bonnes nouvelles. C'est parti pour le TFactu.
Alors dans cette émission qui s'annonce, vu les têtes en plateau portées vers le désespoir, on va commencer ce TFactu par une note positive. En effet, tout n'est pas noir dans le week-end du TFC puisque ce dimanche, les Pitchouns se sont imposés à Bayonne et se qualifient pour les 32e de finale de Coupe Gambardella. Une victoire avec la manière 6-2 pour les jeunes joueurs coachés par Nicolas Sanoun, qui on se le rappelle ont été finalistes de la précédente édition. A part ça, la réserve, elle, recevait Blagnac pour le compte de la 12e journée de National 3 dans un derby que les Violets avaient à cœur de remporter. Que nenni, les Toulousains ont été défaits sur le score de 3-1. Les joueurs de Jean-Christophe Debut reculent à la 9e place et vont devoir faire attention parce que derrière ça revient vite. En bref, aujourd'hui, Eli Bopp, ancien coach emblématique du TFC, s'est dit prêt à rejouer un rôle au sein du club. Cependant, il réfute la volonté de remplacer Antoine Comboiré au poste d'entraîneur, mais se verrait bien, je cite, avoir un rôle plus général. De plus, pour sortir de la crise, d'après nos confrères de la Dépêche, la cellule recrutement du club travaillerait sur deux postes, un défenseur central et un latéral gauche. A l'inverse, on vient d'apprendre que le défenseur Mathieu Gonsalves était l'objet de l'intérêt de la Juve. Les différentes parties se seront rencontrées déjà 4 fois, sachant que le club turinois avait déjà essayé de l'enrôler cet été. Le jeune joueur de 18 ans est également pisté par Liverpool. Du beau monde donc s'arrache Mathieu Gonsalves. Et voilà, c'est tout pour le TFactu, et c'est déjà pas mal.
Merci Victor pour ce tour d'actu du TFC. C'est vrai qu'on est un peu surpris hein, de voir que Gonsalves soit autant courtisé malgré son début de saison un peu compliqué, mais bon, en tout cas, ils doivent juger qu'à son âge, c'est suffisamment prometteur. En tout cas, on continue et on enchaîne avec l'événement du week-end et la réception de Reims. Samedi soir, les Toulousains recevaient le stade de Reims pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a très mal démarré. À la 9e minute de jeu, Rochel, encore lui, s'est fendu d'une énorme cagade pour concéder l'ouverture du score. Le défenseur uruguayen, arrivé cet été sur les bords de Garonne, a offert une véritable passe décisive au milieu rémois Rémi Houdin, qui n'en demandait pas tant. Rien d'autre à signaler dans le jeu pour ce match, lors duquel aucune des deux équipes n'aura particulièrement impressionné. Point néanmoins inquiétant, la nonchalance et le manque d'envie des joueurs du TFC sur cette rencontre, alors qu'ils occupent toujours actuellement la place de lanterne rouge du championnat. En fin de rencontre, des supporters toulousains se sont rendus en tribune nord pour protester contre la direction. S'en sont suivis de vives discussions avec le président Olivier Sadran, les supporters ont réagi après la rencontre.
Un président qui ne parle pas, un président qui est muet, complet, on n'a jamais vu ça dans un club de Ligue 1 quoi.
Et justement, le président Sadran s'est exprimé dans la dépêche 30 minutes après la rencontre. Quelque chose d'assez inhabituel. La Garonne devrait bientôt geler, Arnaud ?
Oui, effectivement, Corentin. Mais Olivier Sadran, c'est tout d'abord un homme discret. Président du TFC depuis 2001, il dirige la société Nouvrest et est classé 252e fortune de France selon Challenge en 2019. Mais Olivier Sadran est surtout un homme de l'ombre qui ne s'exprime que très rarement dans les médias. Alexandre Roux, le chef des Indians Tolosa, le qualifie même de fantôme. Pourtant, c'est un passionné de football et sans lui, le TFC ne serait pas là où il est aujourd'hui. Lorsque le club était enlisé dans une crise économique et sportive, c'est lui qui l'a remis à flot et qui a permis de passer de la Nationale à la Ligue 1 en seulement 3 ans.
Pourtant, sa présidence est de plus en plus contestée. Qu'est-ce que les supporters toulousains lui reprochent à Olivier Sadran ?
Eh bien, la première chose, c'est son absence de communication. On en a un nouvel exemple ici.
Nous, on est très gentils, on fait rien, mais de toute façon, il n'y a pas d'interlocuteur. Quand le président veut discuter avec personne et nous dit qu'on a qu'à aller au rugby ou ailleurs, ça ne peut pas aller. En principe, il y a toujours du dialogue entre les supporters et les dirigeants, sauf ici à Toulouse.
Après, tu l'as dit, Corentin, le fait qu'il se soit exprimé dans la dépêche est quelque chose d'assez inhabituel, pour ne pas dire rarissime. L'autre point de contentieux, c'est l'état-major d'Olivier Sadran. Dans le viseur des supporters, Jean-François Soucas, le directeur général, et Dominique Arribagé, le chef du recrutement, il leur est reproché d'avoir coupé toute communication avec les supporters et les erreurs de casting répétées. On pense notamment à ton grand ami Augustine Rorel ou encore au choix d'Antoine Camboire. Pour contrer cette crise naissante, Olivier Sadran s'est engagé à rembourser la moitié des abonnements de ceux qui le veulent, mais à part cette mesure, rien de satisfaisant qui ne peut calmer les supporters. Cette sortie médiatique n'apaise donc pas vraiment les tensions. Reste désormais à savoir s'il y aura du changement cet hiver, tant au niveau de l'effectif que de l'organigramme, mais cela reste très hypothétique et rien ne semble indiquer un retour au calme du côté du stadium.
En tout cas, pour avoir un Olivier Sadran qui fait une sortie médiatique, c'est que c'est vraiment la crise au TFC. Les gars, on en pense quoi de cette sortie du président ? Elle est plutôt juste ? Elle est plutôt bienvenue ? Ou alors vous trouvez qu'elle est à côté de la plaque ?
Bah écoute, c'est assez surprenant, mais en même temps, il était obligé de parler parce que là, ça commence à en faire beaucoup au niveau des défaites. Donc tous les supporters attendaient une réaction de la présidence. On l'a vu, ça a chauffé dans les tribunes à la fin. Donc bon, là, c'était l'occasion. Il l'a fait, malheureusement, assez maladroitement, il faut le dire. Puisqu'on a vu que c'était une interview juste exclusive pour la Dépêche, alors que tous les médias étaient réunis en zone mixte. Il a pris, on va dire, pas à partie, mais de son côté, un journaliste de la Dépêche pour lui dire de venir directement dans son bureau. Donc c'était pas très classe, quoi.
Ça ressemblait à une convocation, hein. On a vu qu'il y avait une dizaine de journalistes qui n'attendaient qu'une chose, c'était d'entendre Olivier Sadran. Il est passé, il leur a dit « je ne communiquerai pas ». Il a convoqué donc un journaliste de la Dépêche du Midi, qui est celui qui suit principalement le TFC pour le journal. Et donc il lui a délivré une interview, mais c'est vrai que c'est assez maladroit.
Ouais. Bah, je pense que c'est ça aussi le pire, c'est que autant ne pas communiquer du tout et ne pas répondre aux questions des journalistes en général, ça peut se comprendre, ça peut être une stratégie de communication même si elle est très mauvaise. Mais là, de prendre à partie un seul journaliste en laissant sur le carreau le reste, je pense, enfin c'est carrément un manque de respect pour tous ceux qui ont fait le déplacement.
Et dans le contenu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention ?
Bah, dans le contenu. Pas grand chose, à part l'annonce des abonnements, mais on se demande vraiment si c'est pas pour faire un petit peu dégager du stade les gens qui sont mécontents, justement, si c'est pas une mesure faite dans la précipitation, ouais. Justement pour ça. Après, que te
dire. Il parle aussi des joueurs, hein. J'ai retenu aussi quelques phrases qui parlaient des joueurs qui disaient qu'ils devaient se remettre en question, mais. Bon, c'est pas quelque chose qui révolutionne la communication du TFC. On l'a déjà vu en conférence de presse avec Antoine Camboire.
Puis voilà. Il avait l'air d'affirmer aussi que le poste de Camboire n'était pour le moment pas du tout en danger et que.
Ouais, je crois qu'il a qualifié la question d'idiote quand on lui a demandé si Camboire pouvait être.
C'est ça. Alors que les supporters finalement critiquent l'ensemble de l'organigramme du club. On se demande qui a fait le recrutement. Il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une sortie assez. Assez bizarre, tant sur la forme que sur le fond, quoi.
Ouais, donc si je vous écoute, c'est une énorme erreur de communication, encore une fois, de la part de Sadran.
Ouais, il n'y a aucune réponse aux questions que les supporters se posaient, je pense.
Encore une fois, il était obligé de répondre, mais de cette manière-là, c'est vraiment rajouter de l'huile sur le feu, quoi. En plus, avec les médias, on sait que la communication du TFC est assez fermée, d'habitude. On en a l'habitude ici. C'est vraiment très difficile pour avoir accès aux joueurs, pour avoir accès à des dirigeants du club. Donc là, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues pour rien, quoi.
Ok, bon, en tout cas, on espère que cette intervention saura tout de même apaiser les supporters, même si on a des doutes, et puis en tout cas qu'elle fera prendre conscience aux joueurs qu'il faut se bouger. Pour rester sur les sorties médiatiques, on accueille Julien, qui vous a préparé une compile des plus belles déclarations foot de la semaine. C'est l'heure du top d'éclat.
Et oui, messieurs. Et donc, faute de réaction de Monsieur Sadan, et pourtant nous étions micro-tendus en zone mixte, j'ai cherché pour vous le meilleur des déclarations du week-end. Cette fois-ci, je suis resté en France. On commence par la Ligue 2 avec la réaction de Teddy Chevalier, le joueur de Valenciennes et unique buteur du match VAFC Paris FC. Un pénalty transformé à la 90e minute. Écoutez sa réaction.
Et moi, les sifflets, je les fais taire avec ce genre de réaction à la 90e minute. Il faut les porter, les coronets, ça, pour les mettre. Hein. Et ce soir, c'est ce que j'ai fait. Voilà, maintenant, si les gens veulent continuer à siffler des gens qui se donnent pour le club, qui mouillent le maillot, ben, qui continuent. Voilà, moi, je suis venu pour travailler, marquer mes buts. Pour l'instant, ça se passe bien. Et voilà, je suis très content pour l'équipe ce soir.
Sifflé, il a donc répondu de la meilleure des manières. Voilà de quoi inspirer nos joueurs toulousains.
Ouais, on espère qu'ils auront peut-être un peu moins d'eau dans le cerveau quand même.
On enchaîne en Ligue 1 cette fois avec la VAR qui fait toujours débat. Chers collègues, je ne vous demande pas votre avis, mais monsieur Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, a choisi lui de s'exprimer après la défaite de son équipe 2-1 face à Lille.
Parce que le point est pénalty, hein. il faut le siffler, hein, celui-là. Parce qu'il y a des mecs qui sont... Dans le camion là ou à Paris, je sais pas, à la VAR là, il faut qu'ils enlèvent la buée qu'il y a sur leur verre, hein, parce que il prend le ballon, il dégage le ballon et c'est lui qui vient s'empaler dedans. Hein.
Messieurs de l'assistance vidéo, ce message est pour vous. Enfin, je termine cette chronique par la sortie de Depay. Supporter toulousain, pour vous rassurer, je vous propose d'écouter ceci. C'était après le match nul de l'OL contre Leipzig mercredi soir. Les Lyonnais ont miraculeusement réussi à se qualifier pour les huitièmes de la Ligue des Champions, mais les supporters étaient surtout là pour manifester leur mécontentement contre Marcelo.
You can see in the camera, they spit on us.
Vous avez vu qu'ils nous ont craché dessus. Ils nous ont vraiment craché dessus. Et sur le staff, sur certains joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est vraiment très, très gênant.
Comme quoi, il n'y a pas côté FC que les supporters ont des problèmes avec leur équipe.
Effectivement. Merci Julien pour ce top d'éclat encore plein de délicatesse. On en revient au match des Violets samedi contre Reims. On a vu une forme d'apathie, un manque flagrant d'envie, peu de mouvements offensifs. Et les supporters ont d'ailleurs réagi sur la performance des joueurs du TEF et sur la situation.
Mais le problème, bon, enfin, moi je pense que la plupart des joueurs, ils doivent être vraiment malheureux de jouer là, même des Toulousains comme Amiens ou d'autres. Parce que franchement, il n'y a rien du tout, mais c'est désespérant même pour eux.
Et Kelvin Amiens a lui aussi répondu au micro de JT Foot après le match. Il prend avec son équipe l'entière responsabilité de la situation et dédouane complètement son coach et sa direction. On vous laisse l'écouter.
Personnellement, moi ça m'a touché parce que ça fait mal, c'est à cause de nous. Si on en est là, c'est à cause de la direction ou des supporters. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est à nous de nous bouger. Et là, on n'y arrive pas et je pense qu'il ne faut pas faire ça, il faut qu'on soit tous ensemble, même si c'est dur. Mais après, je les comprends.
C'est quand même surprenant de voir une équipe avec une telle attitude devant son public alors qu'elle est dernière au classement. Comment vous expliquez ça? Ils sont en train de lâcher Comboiré ou vous voyez d'autres explications, vous?
Bah, je pense qu'ils sont surtout en train de paniquer complet, ils savent plus où donner de la tête. Il faut dire que la performance de début de match n'a pas aidé. Une entame catastrophique, on y reviendra peut-être après, mais pour l'instant, c'est vraiment, comme l'a dit ce supporter, c'est vraiment le club qui navigue à vue, en fait. Il n'y a pas de point directeur, il n'y a rien, quoi.
Quand ils passent en zone mixte, soit ils sont perdus, soit ils sont énervés et ils passent pas. Soit quand ils répondent aux questions, ils sont totalement perdus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi dire, à part évidemment les banalités qu'on entend tout le temps. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne trouvent pas d'explication, ils sont juste dépités. Et évidemment qu'il faut les charger pour le niveau de jeu qui est affiché, mais je pense qu'il y a un truc mental qui a dû se passer dans les vestiaires. Je pense que évidemment l'enchaînement de défaites, ça a dû faire très très mal.
Le ressort est cassé et en plus on le voit avec l'entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur c'est celui qui doit communiquer, un petit peu donner de la confiance à ses joueurs, et même face aux médias il dit que c'est pas à lui de répondre, en fait c'est à son président, et on a vu ce que ça a donné, quoi.
Ce qui est un peu inquiétant, c'est que Comboiré est quand même réputé pour plus être un entraîneur qui est capable de booster ses joueurs mentalement que pour être un technicien et un tacticien, et donc que ce soit assez faible en termes d'organisation de jeu, c'est pas si surprenant que ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'arrive pas à les booster mentalement.
Bah, c'est-à-dire que oui, peut-être, c'est un coach avant tout tourné vers le mental, vers la combativité et tout, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Quoi. Bah, tu ne peux pas jouer toute une saison avec le mental et la combativité. Et là, ça s'est vu.
Le problème,
c'est
que là, il n'y a même pas de combativité de mental. Là, y a
en
rien,
tout cas, c'est les ressorts qu'il voulait inculquer. On l'a vu sur les deux premiers matchs, par exemple, face à Lille, face à Lyon, il y a eu d'assez bons matchs dans le contenu, mais après, ça n'a pas duré. Quoi. Donc, c'est le gros problème de cette équipe. Quoi.
Parce que le problème, là, c'est que quand on regarde le match, quand même, Reims n'a pas montré grand chose. Je sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, mais j'ai pas trouvé quand même que c'était un grand stade de Reims qui. Enfin...
Non, totalement. Surtout que on regarde un peu les stats après le match et on se dit, sans avoir vu le match, peut-être que le TFC a pu embêter le stade de Reims. J'ai noté une petite stat, que ce soit pour la conservation du ballon, ils ont 52% de possession, ils ont plus de tirs cadrés que le Rémois. Mais dans le jeu, on a vu que les seules fois où ils avaient la balle, c'était vraiment, ça faisait tourner derrière quand Rochel n'était pas en difficulté, et c'était Sangaré qui faisait des passes latérales. Quoi.
Ouais, c'est ça, il n'y avait pas grand-chose à tous les niveaux en fait. En défense centrale, on l'a vu, ça a paniqué d'entrée du côté de Rochel, et après il a apporté un petit peu sa poisse aux autres défenseurs. Dans l'entrejeu, il n'y avait pas de structure, on ne savait pas qui descendait rechercher les ballons, c'était un peu n'importe quoi. Et sur le front de l'attaque, on a vu Saïd dézonné de droite à gauche sans arrêt, il n'y avait pas de structure. Dosevi, qui était capitaine ce soir-là, n'a pas su remobiliser ses troupes sur le terrain.
Il a perdu en travers Dosevi, ouais.
Donc c'était très compliqué. Quoi.
Moi, ce qui m'a quand même beaucoup marqué, c'est que j'avais l'impression de voir des joueurs devant qui restaient statiques, qui ne tentaient de faire aucun appel. On a vu le petit Manu Koné, lui qui a faim, qui a 18 ans, qui a des choses à prouver, qui a fait preuve d'un peu de vista, mais chaque fois il faisait la bonne élimination, le bon dribble, et puis il regardait autour de lui et il n'y avait aucun appel, rien. On a l'impression qu'ils ont déjà lâché l'affaire, les Toulousains, ils croient déjà pas au maintien.
Même sur les centres, les seuls centres qu'a eu à réaliser de Séville, tu voyais qu'il y a eu au moins 3 centres sur la première période où à chaque fois il n'y a personne au deuxième poteau. Et le problème, c'est que dans cette situation-là où le TFC a besoin évidemment de marquer, de se remettre en confiance, mettre la balle dans la surface, c'est super important pour créer des occasions facilement, entre guillemets, pour pas passer dans l'entrejeu parce qu'on sait qu'il y a des problèmes là-dedans, et mettre des ballons facilement dans la surface. Et quand on voit qu'il y a que Sanogo qui est très en difficulté, qui a été très en difficulté face à Abdelhamid, ça fonctionne pas.
Puis même à la finition, en fait, quand on regarde bien le match, qui a fait les frappes, c'est surtout les milieux de terrain qui ont tenté de très loin, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise d'initiative dans les 20 derniers mètres. C'est vraiment tenter un petit peu à la désespérée. Quoi. Et puis Sanogo en point d'appui, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça commence à faire beaucoup. Quoi.
Et puis un Boigard un peu perdu aussi. Enfin, sur les quelques ballons,
Boigard,
ouais, sur les quelques ballons qu'il avait au niveau offensif, on sentait que c'est vraiment le mec sur le terrain qui pouvait faire des différences. Il y a eu Manu Koné aussi sur quelques actions, sur 2-3 actions dont je me souviens un petit peu, où il a su aussi dédoubler en une touche. Mais en fait, dès que ça arrive à Sanogo, hein, c'est pas pour le blâmer parce qu'on vient de le faire, mais dès que ça arrive sur Sanogo, la remise, elle est soit en touche ou dans les pieds d'un Rémois.
En tout cas, les Violets ont intérêt à montrer plus de détermination lors des prochaines rencontres s'ils veulent se maintenir. Allez, il est maintenant temps pour nos rédacteurs de désigner leur top et flop de la rencontre. On va passer aux récompenses.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
Et un changement dans les récompenses avec la disparition de la violette. Cette fleur dont un des symboles et l'amour discret semblait parfaitement collé aux supporters d'un club comme le TFC, qu'il n'est pas toujours facile de soutenir. Mais face au désamour grandissant dans les tribunes du stadium et surtout face à la difficulté, on le concède, de trouver plus d'un joueur satisfaisant à chaque rencontre de Toulouse, nous avons décidé de ne conserver que le magret et la saucisse. Et on va commencer par le magret. Simon, c'est qui le meilleur joueur toulousain pour toi ?
Pour moi, ça va être Boigard, tout simplement parce qu'il a perdu très peu de ballons par rapport aux autres, et que sur les seuls ballons qu'on lui a donnés, j'ai trouvé que c'est le seul qui a réussi à en faire quelque chose, soit en créant des décalages, soit en éliminant un ou deux joueurs.
Hugo.
Très très difficile, je sais même pas quoi te dire en fait, donc c'est pour te prouver la pauvreté du jeu, mais on va dire, allez, peut-être, même si je sais que dans l'équipe ils ont l'habitude de noter des joueurs sur 45 minutes, mais Koulouris, parce qu'il est rentré, on a vu de suite que ça a servi un petit peu de relais avec Sanogo, il a apporté, il a tenté, bon, ce qu'il a pu, mais il a tenté, il a frappé, et je comprends pas comment ce gars-là peut pas être titulaire d'entrée, sachant les difficultés offensives du TEF, quoi.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que bon, il aurait pu débuter le match, effectivement. Mais Comboiré a l'air d'être assez fan de Sanogo, parce que de plus en plus, c'est Yaya Sanogo qui
ouais, bah, qui il a raison, qui continue. Hein. S'il veut cracher le club comme ça, avec 12 points à la fin de la saison, pourquoi pas. Mais
c'est son passage à Arsenal, c'est pour ça. Il a bien aimé Arsenal.
Ouais. Ouais, certainement.
Je vois qu'Hugo n'est pas extrêmement fan de Sanogo. C'est désormais au tour de la saucisse. Bon, j'ai une petite idée du joueur qui pourrait réaliser l'exploit d'être nommé unanimement deux émissions de suite, mais je pourrais être surpris. Hugo, tu as choisi qui ?
À ton avis, Sanogo ? Allez, on va tenter Sanogo parce que c'est pas encore contre lui, mais seul il peut rien faire, quoi. Seul il peut rien faire et on l'a bien vu sur les centres. C'est un joueur qui fait quasiment 10 cm de plus que tous les défenseurs qu'il a en face. Il est incapable d'en prendre une de la tête. Donc c'est qu'il y a un problème dans le timing ou quoi que ce soit. D'en être là, c'est malheureux pour lui. Quoi. Mais malheureusement, ça tombe sur lui.
Simon, c'est qui t'associe ?
Moi, j'ai choisi l'homme qui avait des passoires à la place des pieds. Et j'attribue ma saucisse à Rogel.
Eh bien, ça tombe bien parce que les supporters semblent d'accord sur la saucisse de Simon. Nos rédacteurs en ont entendu de belles sur le défenseur uruguayen à la sortie du stadium.
Ce joueur, c'est une catastrophe. C'est
quand même, on le voit depuis le début de la saison, il est vraiment pas à l'aise avec ses jambes, avec ses pieds. Enfin, tu le vois qu'il galère. Je me demande comment on a pu recruter un joueur comme ça.
Comment les joueurs sont professionnels de foot avec ce niveau
ce
comme
niveau-là,
ça
quoi. C'est très très faible. C'est même pas niveau amateur, quoi. Ah ouais.
Là, il y a urgence en défense. Il va vraiment falloir recruter cet hiver. Mais avant ça, il reste deux matchs à disputer au TEF cette semaine. Un déplacement mercredi à Lyon à 18h45 pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Et un autre déplacement samedi soir, cette fois à Nice. Mais ce qui nous intéresse le plus à UJT Foot, c'est l'après-trêve hivernale et la rencontre de 32e de Coupe de France qui attend le TFC le 4 janvier. Les Toulousains se déplaceront sur la pelouse de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Hugo a interviewé Baptiste Ridira, l'entraîneur de l'équipe du Loiret, sur les performances actuelles de son club.
On est actuellement 10e du classement de National 2 dans notre poule. Une poule très très dense, donc on reste sur une dynamique plutôt positive. Puisqu'on a fait un match nul ce week-end et on restait sur deux succès de rang en championnat alors qu'on avait connu un petit trou de trois défaites de rang. Nous, aujourd'hui, on n'a pas un club à tailler pour jouer les premiers rôles et notamment la montée en national. On a plus un profil de club qui souhaite se pérenniser au niveau national 2.
Et en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach de National 2 semble ravi d'affronter un club de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive.
Ça sera que la deuxième fois de l'histoire du club que notre équipe première rencontre une Ligue 1. Je pense pas qu'on puisse se targuer que ce soit une habitude. Effectivement, ça fait deux saisons de suite et c'est un très grand bonheur pour nous. Et c'est une très belle fête potentielle pour le club que d'accueillir un club de Ligue 1. C'est vrai que les résultats actuels de Toulouse ne plaident pas forcément en leur faveur. Maintenant, voilà, on est face à une belle écurie de Ligue 1, un club historique en Ligue 1, avec des joueurs de Ligue 1. Il faut rester à sa place. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de National 2. Maintenant, on sait tous que sur un match, de toute façon, les niveaux peuvent s'équilibrer. Le terrain, effectivement, qui ne sera pas le plus beau terrain du monde, peut niveler aussi les différences entre les joueurs. Sans prétention aucune, on va jouer notre carte à fond en prenant en compte effectivement aujourd'hui une dynamique qui est moyenne du côté de Toulouse. Maintenant, effectivement, moi je leur souhaite à un moment de se réveiller, mais peut-être d'attendre de passer le 4 janvier pour que ce soit le cas.
Heureux d'affronter une équipe de Ligue 1 et qui croit aux chances de son équipe de réaliser un exploit, c'est une belle histoire pour ce club de Saint-Privé, Hugo.
C'est une belle histoire pour eux de se retrouver là. Voilà, ils sont habitués entre guillemets. L'année dernière, ils avaient été éliminés par Rennes en 16e de finale, donc le futur vainqueur, donc c'est pas mal. Et puis en plus, voilà, pour l'instant, ils ont carrément éclaté leur équipe précédente en 8e tour de Coupe de France, victoire 6-0. Donc c'est une équipe qui est en confiance, on va dire, qui est dans son standing de milieu de tableau en N2. Donc voilà, c'est une équipe qui n'aura rien à perdre. Et puis on ne sait jamais, avec un TEF dans cet état, sans Gradel, on le rappelle, qui est blessé pour quasiment 2 mois. Donc tout est possible. Et en plus, sur un petit terrain, comme on a l'habitude, quoi, un terrain du dimanche après-midi. Quoi.
Et s'ils peuvent récupérer Rogel au passage, moi, ça ne me dérange pas.
Tu penses qu'il est niveau pour la N2
Je suis même pas sûr.
C'est ouais.
En tout cas, cette émission touche désormais à sa fin. Il est temps de la conclure comme chaque semaine avec le quiz, et Axel nous en a préparé un plutôt hiérarchique. Axel, sur quoi tu nous as préparé ce quiz ?
Bonsoir messieurs, là le quiz, puisqu'en ce moment le président Olivier Sadran revient dans toutes les conversations, pourquoi pas faire un quiz sur les présidents et propriétaires de clubs de football ? Allez, on y va. Question de rapidité là tout de suite, quel joueur était surnommé le président ?
Laurent Blanc.
Ouais, un point pour Coco, il a gagné ce surnom à l'Olympique de Marseille normalement en 98. Deuxième question, vrai ou faux ? Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, a dit « Moi, président du PSG, je peux vous dire que la Ligue des Champions serait déjà dans l'armoire à trophées. »
Je crois que oui.
Non,
ça me dit
pas,
un truc cette phrase, mais c'est peut-être...
C'est quand même un peu gros là.
Non, c'est faux, il n'a pas dit ça. Ce serait, j'imagine, vraiment un gros tacle à l'encontre de son homologue Nasser Al-Khelaifi. Et petit rappel, la Ligue des Champions est dans un seul armoire à trophées, celui de l'Olympique de Marseille.
T'es obligé de la caser celle-là.
Elle n'est pas dans celle du TFC.
Obligé
ça,
de la caser. Question numéro 3. Quel est le club de Ligue 1 dont le propriétaire est le plus riche ?
Je dirais Monaco ?
C'est Nice, bravo.
C'est Nice,
Sir Jim Ratcliffe, qui a racheté Nice il n'y a pas longtemps, qui possède une fortune estimée, selon Forbes, à 22 milliards d'euros.
Ah oui, Ribolovlev n'y est pas tout à fait, non.
Ribolovlev est pas loin, mais c'est Jim Ratcliffe qui... Oui,
nice.
En effet. Question numéro 4, avant-dernière question. Comment s'appelle le nom de la franchise qu'a créé David Beckham l'année dernière ?
Inter Miami ?
L'Inter Miami FC, bravo. Solide. Simon. Alors... Pour David Beckham, c'est un nom qui célèbre l'incroyable énergie d'une des villes les plus enthousiasmantes du monde, sa diversité, sa passion, ses ambitions, on veut bien le croire. Et pour finir, Florentino Pérez, président du Real Madrid entre 2000 et 2006, puis depuis 2009, a voulu créer une super équipe avant tout le monde dès les années 2000, les Galactiques. Mais combien de millions d'euros il a dépensé entre 2000 et 2005 ? Allez, à 10 millions près. À 10 millions près.
Oh là là.
65 ?
Non, et plus que ça, je dirais.
500.
Parce que Zidane n'était pas loin de ce prix-là, je crois. Je pense qu'il a dû claquer 250.
252 millions d'euros, ce qui ferait un petit peu plus...
En 5 ans, c'est ça ?
Oui, en 5 ans, ce qui ferait un petit peu plus de 330 millions d'euros aujourd'hui, de quoi s'acheter Neymar et Ronaldo aujourd'hui. Donc, on récapitule. En 2000, Figo pour 61 millions d'euros. En 2001, Zidane pour 77. Et ensuite, Ronaldo pour 43, Beckham pour 35, Owen pour 12 millions et Robinho de Santos pour 24 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour moi, messieurs. À l'année prochaine.
Ouais, Florentino qui a toujours eu la dépense facile. Merci, Axel. Allez, EJT Foot, c'est fini pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On remercie tous nos chroniqueurs en plateau. Merci également à Adrien qui assure la technique comme chaque semaine. On se retrouve début janvier après la trêve hivernale avec, on l'espère, quelques cadeaux de Noël défensifs au pied du sapin du TFC. Bonne fête à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.